Depuis le début du confinement et de la fermeture des établissements scolaires, l'école à la maison s'est organisée et un système d'enseignement à distance via des plateformes numériques proposées par l'Éducation nationale a été mis en place. Les enseignants, de leur côté, ont dû réapprendre à travailler autrement, les parents des élèves ont dû s'adapter à cette méthode et bien sûr, les élèves et étudiants ont découvert derrière un ordinateur, une tablette ou un téléphone des cours en ligne, une façon d'apprendre et de consolider leur savoir différemment. On peut alors se poser la question, sont-ils tous égaux face à cette technologie, sachant qu'un tiers des 25% les plus pauvres ne possèdent pas d'ordinateur ou n'en ont qu'un pour toute la famille. L'Éducation nationale se déclare sans nouvelles de 5 à 8% des scolarisés, plus communément appelés élèves perdus. Et la plupart étaient déjà des décrocheurs scolaires en temps normal. Pour en savoir plus sur le système mis en place, son organisation et le moral des enseignants, des élèves et des familles, entretien avec Caroline Bouly, principale du collège Paul Langevin d'Avion, commune du bassin minier, qui avoue entre autres que cette réorganisation inédite a tissé une toile sociale solide et reste positive sur le devenir de ses élèves.
Depuis l'annonce du confinement, il a fallu mettre en place une réorganisation du collège et ça s'est fait en fait grâce à tous les personnels, c'est-à-dire qu'en fait il a fallu reconstruire le fonctionnement du collège mais à distance, c'est-à-dire que les parents le vivent actuellement, d'ailleurs j'en profite pour les saluer, tous les parents de France vivent le fait que on a dû délocaliser l'école à la maison. Les professeurs ont dû réinventer leur métier en le faisant de chez eux la plupart du temps. Puis nous c'est pareil, c'est-à-dire à l'échelon de l'organisation du collège, on a dû tout réorganiser en faisant des courroies de communication, des réunions à distance, des visioconférences. On est devenus les champions de la visioconférence.
Pour certains élèves, il y a un risque de décrochage, ce qu'on appelle les élèves perdus, qui avaient déjà des difficultés avant, pendant l'enseignement mutuel simultané, et qui là décrochent complètement. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a une présence particulière pour ces élèves?
Alors, je pense que c'est la première chose à laquelle on a pensé. C'est-à-dire, en même temps que le contenu qu'on allait donner à nos élèves, c'est-à-dire poursuivre l'école et les apprentissages, on s'est immédiatement rendu compte que il fallait consolider, tisser le lien. Et donc en fait, quand je parlais de réorganisation précédemment, en fait, je parlais surtout de ça. On a essayé de tisser une toile pour faire en sorte que personne ne soit perdu, comme vous dites, c'est-à-dire que, et vraiment, on s'y est tous attelés. Je remercie les professeurs, les infirmières, les assistantes sociales, les CPE, tout le monde en fait, c'est-à-dire que tout le collège s'est mobilisé. Ça passe par des choses très simples, c'est-à-dire que par exemple, on a basculé le standard sur un téléphone personnel. Comme ça, les personnes pouvaient nous contacter dès qu'elles avaient un problème, et d'ailleurs ça a permis de régler une grande partie des problèmes numériques, vous savez, de connexion, etc. Et puis ensuite, les parents, on a mis en place un système pour que tous les élèves soient contactés une à deux fois par semaine par leur enseignant, en plus des cours et du contenu qu'ils reçoivent à distance. On n'a pas du tout dissocié le contenu des cours et le lien. Alors d'ailleurs, je pense qu'il y a des parents qui doivent nous maudire parce qu'on lâche pas l'affaire. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas à contacter une famille ou un enfant, on passe par tous les moyens possibles.
Est-ce que vous rencontrez des difficultés et quelles sont-elles? Je pense, est-ce que la plateforme fonctionne très bien? Puis je pense aussi, malheureusement, aux élèves qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont peut-être pas forcément d'ordinateur. Il y a un système aussi mis en place par le collège pour régler ça?
Alors, justement, là, en ce moment, je suis au collège on est en train d'y travailler avec notre référentiste, c'est-à-dire la personne qui est responsable du numérique chez nous, et puis la direction. Alors, ce qu'on a fait en commençant, là, je vais me répéter, mais ce qu'on a fait, c'est justement que toutes les familles puissent nous joindre pour tout ce qui était problème de code. Donc ça a pris, en fait, la première semaine, on va dire, de confinement, elle a servi à ça, c'est-à-dire qu'on a essayé à distance, en fait, souvent je compare mon adjoint et moi à Omar et Fred dans Service après-vente. Bonjour, c'est-à-dire qu'en fait, on répond, et puis, donc surtout mon adjoint, le principal adjoint, en fait, il, avec les enseignants, ils ont essayé de régler tous les petits problèmes de connexion, de code, enfin voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a des choses sur lesquelles nous, on a moins de possibilités, c'est les connexions limitées. Quand on a quatre enfants et qu'on a un seul ordinateur à la maison, ben c'est compliqué. Et ça, on le sait bien. Donc en fait, on a essayé de multiplier les supports, envoyer des photos, envoyer des mails, envoyer. En fait, on a essayé de déployer toutes les possibilités d'envoyer du travail. On se rend bien compte que quand on a des problèmes avec le numérique, c'est moins facile. Mais donc là, en fait, on est en train de travailler sur des prêts de tablettes, mais il faut qu'on les configure, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est en train de se construire. Par contre, vraiment, la première étape, ça a été de faire un diagnostic. Parce que quand on a été confiné, on n'avait pas l'idée, en fait, de l'état de la couverture numérique dans les familles. Et ça, il a fallu qu'on travaille avec les familles pour savoir, certains ont le matériel, d'autres ont le matériel mais pas la connexion. Pour certains, en fait, ils ont Pronote mais via uniquement le téléphone portable. Et tout ça, il a fallu qu'il y a eu une discussion là qui s'est faite durant les dernières semaines entre les enseignants et les familles pour avoir un état des lieux. Et là, on en est là. Donc là, on est en train d'essayer de régler tout ça, en prêtant du matériel, mais il y a aussi beaucoup de débrouilles. On a vu que nos élèves, très vite, ils contactaient leurs copains par téléphone pour savoir qui devait faire quoi, etc., etc., quoi.
Et vous constatez quand même qu'il y a une certaine forme d'inégalité sociale entre, on va dire, l'élite, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets, et ceux qui décrochaient déjà d'avant ?
Des inégalités, il y en avait avant le confinement, et elles sont toujours là. En fait, je pense que le confinement a fait une espèce de zoom. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a. Alors, pour le numérique, ça aggrave les inégalités dans le sens où là, comme on passe beaucoup par le numérique, donc du coup, quand on a une difficulté d'accès, effectivement, là, c'est plus compliqué. C'est pour ça, par exemple, que monsieur le ministre de l'Éducation nationale a dit que les notes ne seraient pas comptées. Ça serait hors de question qu'un enfant soit pénalisé parce qu'il n'a pas su se connecter, par exemple. Je pense que le confinement fait un zoom sur les atouts et les difficultés de la société, et pas uniquement dans le domaine scolaire, hein. Je pense que tout est exacerbé dans nos relations, dans ce qu'on vit, et encore plus pour l'école. Mais les questions des inégalités, ça, on en est conscient, et ça fait partie de notre travail de les réduire.
Est-ce que vous pensez, vous, que cette évolution technologique obligatoire, hein, est-ce que ça va changer peut-être par la suite la façon d'enseigner ?
J'en suis sûre. Je pense que le confinement, ça nous a obligés tous et moi la première, à progresser dans notre utilisation du numérique. Par exemple, moi, j'avais jamais utilisé de visioconférence, donc là maintenant, je maîtrise, et je pense qu'on est beaucoup de chefs d'établissement dans ce cas-là. Il y a eu un réseau d'aide qui s'est tissé entre les chefs d'établissement et entre les enseignants. Je pense qu'en fait le numérique, on le sait depuis longtemps, ça a beaucoup d'atouts et beaucoup de défauts. Là, le numérique, ça nous a mis en lien quelque part. Donc il y a effectivement, par exemple, vous parliez des inégalités, ça effectivement c'est quelque chose de terrible, mais en même temps, là on se rend compte que dans le confinement actuel, ça a permis aussi aux gens de se sentir moins seuls. Et c'est aussi le cas dans l'éducation nationale, puisqu'en fait, on s'est, avec les collègues, là, chefs d'établissement, on se fait souvent des visioconférences pour se dire, pour échanger sur comment on travaille et échanger nos idées. Par exemple, on a utilisé le numérique pour pouvoir construire des solutions pour l'accueil des enfants de soignants. Vous savez, là, parce que les écoles accueillent les enfants de soignants, les visioconférences, ça aide à mutualiser et à s'entraider dans ces cas-là.
Évidemment, le retour à l'école, on ne sait pas quand est-ce que ça va être fait. Donc, hein, on imagine que normalement, la date, elle est toujours fixée au moins au 4 mai, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Selon vous, le meilleur scénario pour finir l'année, ce serait lequel ?
Personne n'a aucune idée de la date à laquelle on va pouvoir réouvrir les collèges. Ce que je peux affirmer, c'est qu'en fait, on attend tout ça avec impatience. Quand on est dans l'enseignement, on a choisi ce métier parce que c'est un métier de la relation. Et le contact avec les élèves, le contact avec les familles, l'apprentissage, c'est d'abord une relation. Et c'est vrai que là, que ce soit pour, je parle au nom des personnels, ben, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Parce que c'est vraiment la clé de voûte de notre métier. Donc, en fait, je n'ai aucune idée de quand on va reprendre. Par contre, ce que je sais, c'est que on attend ça avec impatience et qu'on va savourer la chance qu'on a de pouvoir réouvrir, quoi.
Les élèves, évidemment, ne passeront pas d'examen. Hein. J'évoque surtout le brevet des collèges, donc, puisque c'est un contrôle continu. Bon, ça ne change pas énormément de choses, parce que dans les collèges, c'était un petit peu comme ça avant. Mais une question que je me pose, c'est comment va se passer, justement, pour les troisièmes qui vont rentrer au lycée, l'orientation? Est-ce qu'il y a une cellule qui va être prévue aussi d'avance, au cas où on ne reprendrait pas l'école?
Quand je vous parlais de la réorganisation, c'est ce qu'on appelle la continuité pédagogique. L'orientation, là, à partir du moment où on a été confiné, nous, on a continué à travailler l'orientation notamment avec les professeurs principaux de troisième. Le travail est toujours en cours. C'est-à-dire qu'on a fait les conseils de classe à distance, on a renvoyé aux familles les bulletins et puis les décisions, parce qu'il y avait déjà un avis, des intentions d'orientation des familles qui ont été posées et où il y a eu un avis du conseil de classe. Et donc là, en fait, les CIO ont des permanences téléphoniques, par exemple. Les professeurs principaux qui avaient déjà commencé le travail avec leurs élèves connaissent bien les projets, parce que l'orientation, ça commence pas en troisième, ça commence en sixième, je vais vous dire. Et donc, en fait, on connaît bien les projets de chacun et on sait les élèves qui hésitaient encore sur leur projet d'orientation ou sur les affectations. Donc, en fait, là, tout le travail est en cours et les professeurs principaux de troisième ont des échanges avec les familles quotidiennement pour justement que quand on va que l'on reprenne ou pas. En fait, à vous parler de la reprise, j'allais dire en chair et en os. Nous, comme ça continue de tourner, moi je vais vous dire l'orientation, elle est toujours en train d'être travaillée. Sauf qu'effectivement, quand on rencontre la PsyEN, c'est par téléphone. Quand on échange avec son professeur principal, c'est par téléphone. Par contre, en fait, comme l'orientation est dématérialisée, du coup, là, les saisies et moi, j'ai une vue sur les saisies sur les vœux de mes élèves, donc on va faire ça à distance. Mais j'ai pas d'inquiétude, ça va se faire comme d'habitude.
Et beaucoup d'enseignants, que ce soit dans les écoles primaires, l'université, les lycées, mais les collèges aussi, beaucoup d'enseignants sur l'Hexagone pensent qu'on ne pourra pas justement rattraper le retard qui est dû au confinement.
Alors, au-delà de nos élèves et des familles, je pense que le confinement, c'est vrai qu'il nous interroge tous. Et qu'ils nous poussent tous à réfléchir et à développer des compétences qu'on n'avait pas avant. Vous savez que maintenant, nous, on fait progresser nos élèves sur les connaissances et les compétences. Je ne doute pas que nos élèves aient développé des compétences durant cette période. Rattraper le retard, les dernières études en neurosciences pensent que la plasticité du cerveau fait que le retard se rattrape. Après, c'est clair que il va falloir redoubler d'efforts quand on va reprendre, puisque là, en fait, ce qui est privilégié, c'est pas l'acquisition de nouvelles connaissances, mais la consolidation des connaissances déjà acquises, pour pas creuser les inégalités. Moi, j'ai une totale confiance en mon personnel. Alors, c'est pas de la flatterie, mais j'ai une totale confiance en mon personnel et j'ai une totale confiance en mes élèves pour relever le défi. Au-delà du défi scolaire, c'est un défi de société. Là, j'entendais les dernières, à la radio, tout le monde parle de la crise économique. Que ce soit scolairement ou économiquement, faudra faire face et on fera face.
Et enfin, question bonus, si vous aviez un petit message à passer à vos élèves, aux parents, à vos enseignants et à votre personnel, ce serait lequel ?
Ah, c'est la question que j'attendais, parce que j'ai accepté de faire cette interview, parce que je voulais... vous me permettez de saluer en vrai... Alors, je salue tous les élèves du collège Paul Langevin d'Avion, les élèves de SECPA, les élèves de tout le monde. Voilà, je salue toutes les familles. Je leur dis surtout... Gardez patience et courage, on sait que c'est difficile de faire l'école à la maison, mais on vous remercie pour tout ce que vous faites et tout le travail que vous faites avec nos professeurs. Je salue tout mon personnel, agents, les surveillants, les AED, tout le monde, les CPE, tout mon personnel, je les salue. Alors je les embrasse, on peut pas être pendant le confinement, mais je me permets quand même, voilà, par la radio. Et puis je suis très contente de pouvoir passer un message, et puis je leur répète, on a hâte tous de les retrouver.
C'était un entretien avec Caroline Bouly, principale du collège Paul Langevin d'Avion, commune du bassin minier, interviewée par téléphone. On évoquait avec elle, entre autres, l'école à la maison et la réorganisation éducative dans cette période de confinement et de crise sanitaire due à l'épidémie du Covid-19.